du navire triomphant du nouvel homme fort de la Nouvelle-Néerlande fend les vagues et s'avance vers la terre promise sans encombre. Le nouveau monde est là. Il s'étend devant les yeux de l'équipage, ébahi. Au bout du pont, tout près de la barre, un homme, plus que tous les autres, cherche de ses yeux fatigués à découvrir la bande de terre sur laquelle il s'apprête à mettre les pieds. Son chapeau, d'un coup de vent complice, manque de s'envoler sous les embruns. Un jeune mousse tout près de lui ne peut retenir une familiarité. Sous le poids de l'excitation, il laisse échapper une petite phrase lourde de sens. « Bienvenue chez vous, monsieur le gouverneur !» L'homme est absorbé par le moment qu'il est en train de vivre. Son attention, ses sens, ses pensées, tout est tourné vers cet endroit encore inconnu qui s'étend devant la coque du navire. Le lieu, magnifié par la nature souveraine, aspire les sentiments des marins à la manière des sirènes. Estomaqué, le dignitaire retient son souffle. Le lieu devant lequel il tombe en pamoison, vous le connaissez. C'est il. Elle s'appelle Manhattan. Et bientôt, elle sera belge. Oui, vous avez bien entendu. New York n'est encore qu'un mirage dans l'histoire. Et pourtant, c'est ici que tout se joue. Nous sommes le 4 mai 1626. Il est un peu plus de 11h et c'est l'heure H de mon histoire. Une moustache épaisse, une barbiche finement taillée en pointe. Pierre Minuit est de ces chefs de file qui ne se laissent pas griser par la routine imposée par l'océan. Sa fonction, autant que son amour-propre, exige une impeccable tenue. Une posture si constante qu'elle pourrait rappeler l'écume glissant machinalement sur le dessus des vagues. Dans sa main droite, baguée du sceau de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, à savoir son employeur, il tient des lettres de cachet. La première annonce à son prédécesseur qu'il est démis de ses fonctions. La deuxième assoit son autorité sur la colonie et sur ses membres. D'un trait de plume, la Compagnie indique que toute la tragédie qui se joue ici est officielle. Le mousse, qui tout à l'heure s'est permis de parler à son supérieur comme s'il était l'un de ses compagnons, est reparti démêler les cordages afin de calmer les ardeurs d'une des voiles jouant la revêche. Ce n'est pas le cas du second de Minuit qui est venu le rejoindre. C'est un ancien militaire dont l'arthrose, née d'une blessure au pied gauche, l'oblige à employer une canne. Alors que le sable et la terre ferme seront visiblement atteints en moins d'une heure, il cherche à connaître les intentions de son supérieur. « Monsieur le gouverneur, quels sont vos ordres une fois le débarquement terminé ?» Droit comme une perche, les yeux rivés, immobile, en direction de l'île. Pierre Minuit ne pipe mot. Le vent s'est calmé. Son visage marqué ne laisse transparaître aucune émotion. Absorbé par le moment, il ne répond pas. Alors le vieux briscard relance. Devons-nous nous attendre à de la résistance sur place ? Le questionnement est opportun. S'ils sont là, c'est pour relever de ses fonctions un homme dont la gestion et les actions ont inquiété jusqu'aux Provinces-Unies. En poste depuis un an tout au plus, ce Willem Verhulst s'est payé le luxe de se mettre à dos toute la colonie, et ce, en un temps record. Mécontents, les colons, affamés et torturés par des conditions d'existence rappelant l'enfer de Dante ou l'apocalypse de Jean, c'est selon, avaient réussi à faire entendre jusqu'en Europe leur ressentiment. Devant cette fronde qui couvait, la Compagnie n'a pas hésité à prendre une décision aussi radicale qu'immédiate. Elle a viré le mécréant Verhulst, le remplaçant par le carriériste Minuit, qui n'attendait que cette occasion pour prouver sa valeur. Il la tient et il ne laissera personne se dresser entre lui et son objectif. De longs instants s'espacent et le nouvel homme fort de cette colonie du Nouveau Monde ne répond toujours pas à son second. Ce n'est que lorsque ce dernier s'éloigne, grommelant entre deux coups de canne sur le pont humide, que Pierre Minuit daigne lui accorder de l'attention. Veuillez vider l'armurerie et distribuer notre puissance de feu aux hommes dont la charge est de nous défendre. Nous ne devons rien laisser au hasard. Satisfait ? L'ancien militaire prend la direction des cales. Ce Verhulst pourrait certainement, avec quelques partisans, leur poser des problèmes. Va falloir être prudent. Et rien de mieux, au cœur de situations de tension, que d'avoir le dessus. Qualitativement et quantitativement. Cependant, Minuit ne semble pas penser qu'au pouvoir de nuisance de l'homme qu'il s'apprête à remplacer. Il ajoute ceci. N'oubliez pas que la nature est reine ici. Les armes à feu ne nous serviront qu'à juguler la folie des hommes. La bise, qui s'était calmée, semble s'émoustiller de cette phrase aux allants sombrement prémonitoires. L'expérimenté second ne relève pas. La peur, c'est pour les pleutres. Il n'est pas de ces trempes-là. Les hommes de l'équipage, eux, sont bien loin de ces considérations. L'île qui s'approche est la ligne d'arrivée d'un périple dont la fin était espérée dans les rangs depuis déjà plusieurs jours. Certaines maladies ont commencé à se déclarer dans les rangs. Scorbut. Cette plaie marine intenable est capable de décimer les marins à une vitesse affolante. Heureusement, la terre ferme va contenir l'essor jeté par Neptune et ses sbires. Elle est source d'espoir. Plus son navire approche, plus le nouveau gouverneur est capable de distinguer sur la côte quelques habitations et une église. Il remarque aussi quelques âmes en peine qui, attirées par le bateau qui avance, se sont approchées de la côte. Pierre Minuit n'est pas dupe. Ses survivants, ballottés et décimés par les conditions climatiques, autant que par les aléas d'une nature particulièrement hostile, regrettent certainement d'avoir quitté leur vie européenne. Ou, s'ils ne la regrettent pas, ils aspirent à mieux vivre. Il est là pour cela. Son prédécesseur, certainement dépassé par les enjeux et l'importance de la tâche, a préféré imposer un régime de terreur plutôt que de s'efforcer d'être consensuel. Un choix qui lui coûte aujourd'hui sa place. Les tyrans qui ne parviennent pas à adoucir le quotidien de leur base font long feu s'ils ne disposent pas d'une structure armée et partisane solide. Au milieu du nouveau monde, autant dire que cela est tout bonnement impossible. Chahuté par les vagues et ses pensées, Pierre Minuit est bientôt ramené à la réalité par le bruit d'une canne se glissant derrière lui. Celle de son second. Monsieur, la vigie me fait savoir que nous allons accoster d'ici quelques instants. Sa mission, enfin, peut débuter. Malgré quelques hommes forts et dévoués, le précédent gouverneur comprend tout de suite qu'il ne peut pas faire le poids face à l'armada relative apportée par Pierre Minuit et payée par la Compagnie des Indes Occidentales. Il n'y a donc pas de résistance. D'autant que les colons, regroupés en une petite trentaine de familles, se réjouissent de l'arrivée d'un nouvel homme fort dont la stature impose un certain respect et une certaine confiance. De sa canne frêle, le second s'est mis à la tâche, déployant ses hommes et balisant la zone afin d'apporter immédiatement dans la population une relative sensation de sécurité. En effet, il ne fait aucun doute pour le nouveau gouverneur que ses ouailles sont toutes plus ou moins terrorisées. Pour mieux comprendre de quoi il en retourne, il prend le temps, une fois le déchargement de son navire supervisé, de discuter avec le pasteur de la communauté. L'individu, bonhomme mais crasseux, semble lui aussi de confiance. Sa longue barbe grisonnante rappelle à elle seule que ce nouvel univers est très éloigné de ce que les sociétés européennes peuvent considérer comme la normalité. Ses mains calleuses, elles, viennent rappeler l'essentiel. Peu importe le rang et la position sociale ici, pour survivre, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Pour autant, l'objectif de Pierre Minuit, en prenant à partie l'homme de Dieu, n'est pas de comprendre les affres de l'existence au cœur du Nouveau Monde. Il les connaît. Sa volonté est tout autre. Le nouvel homme fort a quelque chose de bien précis en tête. Il veut acheter l'île sur laquelle il se trouve au nom de la Compagnie des Indes. Monsieur le pasteur, veuillez m'éclairer si vous le voulez bien. Comment avez-vous nommé cet endroit ? L'homme d'église sourit avant de répondre malicieusement à l'interrogation. Wallstraat, la rue Wallonne, monsieur le gouverneur. C'est de là que nous venons. Wallstraat, évidemment, deviendra Wall Street. Mais les méandres de la bourse mondiale en 1626 ne sont que des mirages au travers du temps dévorés par Cronos. Le gouverneur poursuit son interrogatoire. Et cette île sur laquelle vous êtes installé, à qui appartient-elle ? Cette fois, le sourire se range derrière l'armée de poils inégaux et drus. À ceux que nous appelons les manates. Ce sont des autochtones qui semblent vivre ici depuis des siècles. Pierre Minuit se dresse et s'exclame. Quoi, des sauvages ? Le pasteur, à ce mot prononcé, plante ses yeux aiguisés dans ceux de son interlocuteur. Ils ne sont pas chrétiens, en effet, mais sans leur aide, à des moments cruciaux, vous n'auriez trouvé ici qu'un cimetière à ciel ouvert à votre arrivée. Le gouverneur, au fond, n'a cure de la religiosité de ces Amérindiens. Ce qu'il veut, c'est rencontrer leur chef. Son objectif déjà est très clair. Il veut acheter l'île de Manhattan, en faire sa propriété. Pierre Minuit demande donc au vieillissant pasteur interloqué d'organiser une rencontre officielle avec le chef de cette tribu. Bientôt, il en est sûr. Cette île lui sera cédée. Et son employeur, en véritable pionnier, deviendra l'un des premiers propriétaires terriens du Nouveau Monde. Voilà qui n'est pas rien, n'est-ce pas ? Notre histoire commence quelques années plus tôt. Pierre Minuit n'est pas encore gouverneur de cette région qu'on appelle la Nouvelle-Néerlande. Et pour cause, elle n'a pas encore été découverte. Nous sommes au cœur de l'année 1609. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales est une institution dont l'une des missions est de régner en maître sur les mers du globe. Ses navires sillonnent les flots à la recherche de nouveaux territoires inconnus et encore inexplorés. Tout est possible à ce stade. La géographie de notre monde n'est encore qu'une vaste énigme. Voilà un peu plus d'un siècle que le continent américain a été découvert par un certain Christophe Colomb. Et pourtant, tout y reste à faire. C'est dans ce contexte galopant des grandes découvertes que nous nous retrouvons sur un bateau commandé par un marin bien connu de l'époque, Henry Hudson. Le capitaine de la Halve Mine est un homme qui navigue depuis ses 16 ans au service de ceux qui cherchent à faire le monde. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a gravi les échelons en sillonnant une seule et même zone géographique, la future Amérique du Nord. En effet, en 1607 déjà, le baroudeur des flots s'est distingué en allant chercher un passage au nord-ouest du continent américain qui lui permettrait d'atteindre les Indes orientales. Bloqué par la banquise à la fin de l'été, il avait dû abandonner l'idée de poursuivre son expédition. Mais tout de même, ses notes avaient servi à cartographier de nombreuses nouvelles zones. Son employeur de l'époque lui offre une deuxième chance l'année suivante. Cette fois, Hudson tente le coup en longeant la côte de Norvège. Sans plus de succès. Le marin s'est donc résolu à changer de crémerie. Et s'est mis à rechercher de nouveaux financements pour ses expéditions au nord du continent américain. C'est pour cela que la toute nouvelle Compagnie néerlandaise des Indes orientales a embauché l'anglais. Les navigateurs hollandais, les cales remplies de marchandises, sont à l'époque dans l'attente d'un passage plus rapide, pouvant les mener vers l'Asie. Hudson s'entête à vouloir percer le mystère du passage du Nord-Ouest, sans plus de succès que lors de ses tentatives précédentes. C'est alors que, devant le miroir de son échec, le longiligne marin a dû se résoudre à changer d'idée. Dorénavant, il va longer la côte, et pourquoi pas, s'il en trouve un, s'engager sur un fleuve qui les guiderait au travers des terres jusqu'à l'océan Pacifique. c'est à ce moment-là que nous le retrouvons sur le pont de son navire balayé par les embruns. Nous sommes au début du mois de septembre 1609. Déjà, le temps est en train de changer. L'été et ses sources de lumière se tarissent. Les températures nocturnes, au milieu des flots, deviennent plus fraîches, moins propices à la contemplation chère aux amoureux des mers. Il faudra bientôt repartir en Europe, rebrousser chemin encore. Pourtant, cette fois, la donne est différente. Hudson insiste. Le marin, dont la moustache a poussé plus que le raisin durant l'expédition, reste nuit et jour accroché au bastingage. Il guette un fleuve. L'espoir en lui renaît. Et si traverser les terres et contourner ainsi la banquise était possible, s'il parvenait à trouver ce passage, il deviendrait le héros de toutes les provinces unies. Cela ne fait aucun doute. Dans sa main, des livres de bord contiennent les travaux d'un de ses prédécesseurs, qui emprunta le même chemin près d'un siècle plus tôt. Alors que le soleil qui se lève à l'horizon indique que le 11 septembre vient de vivre ses premières heures, il trouve enfin ce qu'il est venu chercher. Une embouchure ténue mais bien présente entoure une petite île qui n'est pas répertoriée sur la carte. Découverte quelques jours plus tôt par Hudson et son équipage, ils l'ont baptisée Staten Island, un nom qui renvoie aux provinces unies qui les missionnent. Ce matin, tout est différent. Le chemin qu'il s'apprête à prendre est le catalyseur de tous les espoirs. Pour la première fois depuis 4 longs mois qu'il longe la côte, Hudson entrevoit une fenêtre de tir. Il se pourrait bien qu'enfin, il ait trouvé son passage vers l'immortalité et vers l'Asie. Loin de ces considérations, l'équipage du marin s'extasie plutôt devant la bande de terre qu'il longe et que les cartes n'ont pas encore répertoriée. Un des compagnons d'Hudson se précipite vers son supérieur. « Capitaine, quel nom allons-nous donner à cette île ?» Le regard de Brest d'Hudson ne trompe pas. Il a trouvé. « Eh bien, nous l'appellerons Manahata. » En entendant ces mots qu'il ne parvient pas à déchiffrer, le marin s'interroge. Le capitaine, tout en quittant son poste d'observation, ne prend pas vraiment le temps de préciser. « Regardez, vous ne voyez pas les collines qui jalonnent cette île ?» Manahata est le terme algonquin pour colline. C'est quand même pas si compliqué. Désarçonné d'avoir été si violemment sermonné, le marin note en grommelant dans son carnet le nom de cette bande de terre au centre de notre histoire. Et Manhattan est né. Ce qu'Henry Hudson ignore en 1609, malgré ses grandes qualités de marin, c'est qu'il ne trouvera pas le fameux passage qu'il cherche vers le continent asiatique. Il se rend rapidement compte que le fleuve qu'il emprunte ne traverse en aucun cas tout le continent. C'est peine perdue. Avant de repartir et peut-être courroucé par son nouvel échec, il donne son nom à ce fleuve qu'il a emprunté. L'Hudson, aujourd'hui encore, est en effet l'artère fluviale la plus importante de la Grosse Pomme. Soit dit en passant, le marin ne va pas stopper ses expéditions pour autant. Il découvrira notamment plus tard la fameuse baie d'Hudson, située au Canada. Elle est l'une des plus grandes du monde. Enfin, quoi qu'il en soit, Manhattan et son fleuve viennent de gagner une identité et une localisation sur la carte. Les dés de notre histoire sont jetés. La période des grandes migrations navales peut commencer. Le célébrissime Mayflower, navire précurseur en 1620, fait des émules. Et tout cela se déroule sous les yeux d'un homme qui ne rêve que d'aventure. Pierre Minuit, évidemment. Ce n'est pourtant pas lui qui prend la tête du premier navire ayant pour but de fonder une colonie à Manhattan. En effet, en 1624, 200 colons exclusivement wallons embarquent sur l'océan à bord d'un navire logiquement baptisé le Nouvelle-Néerlande. Mais comment expliquer que tous les passagers viennent exclusivement de cette région ? Eh bien, bien nombre d'entre eux, au début du XVIIe siècle, se sont réfugiés pour des raisons strictement religieuses au cœur des Provinces-Unies. Ce nouveau départ est l'occasion pour tous de fuir la misère et de trouver un nouveau chez-soi où tout semble possible et au cœur duquel tout reste à faire. Les premières années d'existence de cette colonie qui se construit le long de la côte américaine sont particulièrement difficiles. Cela s'explique par plusieurs facteurs. En premier lieu, les colons présents décident de ne pas s'unir et s'éparpillent un peu partout entre la Nouvelle-Angleterre et la Virginie. On dit pourtant que l'union fait la force, mais dans le cas présent, la figure déjà particulièrement clivante du prédécesseur de Pierre Minuit au poste de gouverneur incite chacun, ou presque, à la jouer perso. Ils sont donc seulement une trentaine de foyers à s'installer auprès de l'île de Manhattan, là où des autochtones les accueillent de manière plutôt pacifique. Cela n'empêche, les hivers particulièrement rigoureux sont dévastateurs, tout comme les virus et les maladies qui s'immiscent et fauchent les plus fragiles comme les blés. C'est donc pour remédier à l'inaction et pire, à la malveillance de l'ancien gouverneur vis-à-vis des colons, qu'on envoie Pierre Minuit afin de redresser la barre. En effet, la compagnie néerlandaise des Indes orientales voit dans cette colonie l'opportunité d'établir un comptoir marchand prospère. Sa position